Dans le cadre des semaines de l'égalité 2025 de Saint-Étienne Métropole, Radio Ondaine vous invite à écouter Les Ondes de l'Égalité, une série d'émissions, de reportages, de captations et d'interviews sur le 90.9 FM en DAB sur Radio Ondaine et sur le www.radio-ondaine.fr.
Bonjour et bonsoir à tous, bienvenue à l'Estanco, quartier sud-est de Saint-Étienne, pour un événement partenarial avec l'espace Sisley, les 3C, Radio Ondaine, la ville de Saint-Étienne. Alors cet événement s'est inscrit dans le cadre des semaines de l'égalité de Saint-Étienne Métropole et ça se déroule jusqu'à la fin du mois de mars. Alors ce soir c'est ciné-quartier, un repas partagé, c'était très bon d'ailleurs, et puis la projection d'un film, Il reste encore demain, de Paola Cortellesi, qui relate donc des violences conjugales, des droits des femmes dans l'Italie d'après-guerre. Alors, on est au mois de mars, il y a une journée importante au mois de mars qu'on célèbre chaque année, c'est le 8 mars, la journée internationale des droits des femmes. Là, c'est pour le droit des femmes, si on revient sur le film, et puis ça parle aussi de violences conjugales. Et c'est vrai qu'en France, là, ça fait 6 ans qu'il y a eu le Grenelle des violences faites aux femmes. C'était le 3 septembre 2019, me semble-t-il, d'où un numéro de téléphone qui est le 3919. Et c'est une cause d'État. C'est défini comme un sujet très important. Alors il n'y a pas une journée où on n'ouvre pas un journal, où on ne regarde pas la télé, où on n'écoute pas la radio sans qu'on entende parler de violences faites aux femmes, de féminicide, ça c'est aussi un mot qui est apparu. Et donc pour débuter cette soirée, avant la projection du film, on nous a proposé de faire une petite discussion. Et on est donc avec Grégory Bonnefond qui est comédien, il est metteur en scène, il est citoyen engagé aussi. Vous connaissez sûrement parce qu'il intervient aussi régulièrement dans différents lieux stéphanois et même ailleurs. Et il fait partie de la compagnie, il l'a même créé, De l'âme à la vague. Et en discutant tout à l'heure tous les deux, on s'est dit que c'était quand même un peu particulier de se retrouver deux hommes comme ça, debout pour discuter des droits des femmes. Et on s'est dit que finalement on aimerait bien que tous ensemble on puisse discuter de ces droits des femmes. Et pour débuter, peut-être Grégory, on parle de la compagnie De l'âme à la vague. Et c'est vrai que les projets à venir, c'est une interrogation sur cette position d'homme, et d'homme toujours en écho, en relief, en parallèle à la femme. C'est un travail que tu entreprends depuis, tu es en réflexion et même en écriture, je crois, sur cette position que l'on doit prendre et la légitimité, pourquoi pas. Il y a la réparation aussi à un moment donné dans ta réflexion.
Ben merci Nico pour ta question. Bonsoir à toutes et à tous. Je voulais juste, si tu m'en veux pas avant de répondre, de redire tout le plaisir qui est le mien d'être avec vous ce soir. Pour moi, c'est pas rien, parce que je suis intervenu pendant 6 ans à l'espace Sisley, notamment auprès des adolescents, pas que, mais on avait créé un groupe d'éveil à la citoyenneté. Donc je voulais juste remercier l'espace Sisley pour leur confiance et me permettre de me retrouver ici ce soir. Donc oui, en tant que médiateur, mais moi, la meilleure façon d'être médiateur ce soir, c'est de vous parler de ma façon d'être artiste. Et derrière l'artiste, y a un homme, puisque c'est comme ça que je me pense, que je me sens. Et comment cet homme, en tant qu'artiste, a l'obligation, à mes yeux, d'opérer ce qu'on appelle aussi de plus en plus souvent une déconstruction. La déconstruction d'un homme que je suis. Déconstruction ne veut pas dire destruction. Déconstruction signifie remise en question. J'estime, de mon humble point de vue, que peut-être que les quelques hommes qui sont là ce soir s'exprimeront, mais chacune et chacun est libre de donner son opinion là-dessus, mais j'estime que oui, chacun des hommes que nous sommes a opéré une remise en question. T'évoquais le 8 mars, qui est la journée des droits de la femme. Pour moi, cette expression résonne de plus en plus comme les devoirs de l'homme, justement dans le cadre de cette déconstruction. Du coup, au niveau artistique, comment cela peut se traduire ? j'ai pas de solution miracle. Je sais pas si une pièce de théâtre pourra réparer plus de 2000 ans de construction sociétale pluriculturelle, parce que c'est propre à toutes les cultures. J'ai l'impression que ce soir nous avons un beau panel de cultures, donc peut-être qu'on pourra aussi confronter nos expériences à cet endroit-là. Moi, humblement, ce que je me sens de proposer, c'est de partir d'un roman d'une autrice qui s'appelle Julia Kerninon, qui était venue proposer son roman Ma Dévotion en 2017 à la fête du livre de Saint-Étienne. Ce qui m'intéresse, c'est pas tellement d'adapter ce roman, excusez-moi, c'est de partir d'un code que Julia Kerninon nous propose, à savoir que vous avez le personnage principal, qui s'appelle Anne, je crois. Anne, elle doit avoir 65 ans, peut-être, 60, 65 ans, et au détour d'une rue de Londres, un soir, elle tombe sur Franck. Franck, il a peut-être 70, 75 ans. Et qui est Franck? Eh bien, c'est l'homme qu'elle a aimé pendant... C'est l'homme de sa vie. Ils se sont séparés il y a 15 ans. Après 40 ans, peut-être 30 ans d'histoire, mais ils se connaissent depuis l'adolescence. Il se trouve qu'ils sont enfants de diplomates. Ils ont vécu ensemble dans les ambassades. Et qu'est-ce qui fait qu'au hasard d'une rue de Londres, 15 ans après leur séparation, ils se retrouvent? C'est le hasard des choses. Et qu'est-ce qu'elle va lui dire à Franck? Elle va lui dire « Tais-toi ». Tais-toi, parce que ce soir, c'est moi qui vais parler. Et ça m'intéresse beaucoup. Finalement, c'est un roman, mais c'est une pièce de théâtre. Sauf que dans le roman, il se parle 6 heures. J'ai pas les moyens de faire une pièce de théâtre de 6 heures. J'ai pas le talent pour me dire que je suis capable de tenir un public en haleine avec un monologue de 6 heures. Mais ce qui m'intéresse, c'est de montrer ça théâtralement. Nous, en tant qu'artistes, on doit se remettre en question puisqu'il y a des déséquilibres économiques. Je pense qu'il est important, on y viendra assez rapidement, mais de mettre la soirée en lien avec le thème principal de ce soir qui est les violences conjugales. Mais dans le cadre de cette remise en question sociétale, il y a beaucoup de choses qu'on peut évoquer. Il y a aussi les inégalités économiques, salariales. Et aucun milieu socioculturel n'y échappe. Et nous, dans la culture, on doit aussi se questionner. Donc moi, je suis tout à fait ouvert au fait qu'il y ait de plus en plus de présence féminine dans les directions des théâtres, à la mise en scène, au plateau. Un grand oui. Mais il n'empêche que nous, on reste comédiens, on doit travailler. Et puis, on doit montrer notre mise en question. Moi, en tout cas, c'est mon objectif. Et pour moi, un point de départ, vraiment avec humilité, ça serait de montrer cette image-là de la femme qui parle et l'homme qui écoute. Et vraiment, donc j'aimerais interpréter ce rôle où je ne dirais rien. Donc c'est pratique parce que j'aime pas apprendre les textes. Et par contre, de montrer sociétalement, puisque le théâtre sert à ça, d'être un miroir de la société. Et donc de montrer cette image du tais-toi, quoi. Parce que je pense que, un peu comme ce soir, c'est pour ça qu'on veut ouvrir la parole à vous. Il se trouve que c'est encore deux hommes qui prennent la parole en premier lieu. Veuillez nous en excuser. Et peut-être qu'il est venu pour moi le moment de me taire pour peut-être lancer une autre question ou peut-être ouvrir.
Alors, il y a quand même quelque chose que je voulais sur lequel je voulais t'interroger. Toi qui as étudié la société dans le cadre de tes études et puis dans le cadre de tes activités finalement, la représentation de la femme dans... Tu parlais de... ces différences économiques, etc. Mais on parle aussi de pouvoir aujourd'hui, obligé de faire une loi, par exemple, qui impose une parité dans les municipalités, etc. Mais par contre, à la tête de l'État, on reste toujours, notamment à l'Assemblée nationale, où cette question de parité n'apparaît pas et n'existe pas. Alors, de ton regard, de tes expériences, de tes analyses, cet homme tout puissant, comment on peut le déconstruire, si on utilise ce terme-là? Quels sont peut-être des exemples, parce que tu observes aussi le monde, mais quels sont les exemples dans le monde qui t'interpellent et qui te semblent aller dans cette voie sur laquelle tu te lances sur cette interrogation de cette place de l'homme?
Là, comme ça, il y a plusieurs choses qui me viennent à l'esprit. Moi, j'ai envie de parler de ce soir, si on prend la photo de ce soir. Hormis le fait que nous sommes deux hommes à parler, le public de ce soir, il est quasiment majoritairement féminin. Déjà, ça dit quelque chose. Alors que c'est un événement sociétal, c'était pas marqué soirée réservée aux femmes, présence des hommes interdite. Non, les hommes, où sont-ils ce soir? Patrick Juvet, où sont les femmes? Je questionne où sont les hommes. Mais de ce constat-là, ça dit quelque chose. C'est que moi, je pense que la société doit se changer et par le bas et par le haut. Par le bas, c'est ça, c'est nous ce soir, c'est la société civile, c'est la démocratie. On se rencontre, on échange, on va confronter nos désaccords, confirmer nos accords. Et puis par le haut, et le haut, ça va être un mouvement démocratique d'élection. C'est-à-dire qu'à un moment, il faudra bien qu'on arrive à mettre une femme au pouvoir ou un homme qui est capable d'instaurer la parité dans les gouvernements, l'égalité salariale une bonne fois pour toutes, et puis de dépasser ce paradoxe, à savoir que c'est quand même magnifique sur le papier, on a un président de la République, c'est le premier président de la République qui a mis autant d'énergie dans le discours et dans les moyens pour constater ce problème des violences faites aux femmes. Et étrangement, alors est-ce que c'est parce que la parole se libère? Ça, c'est une question que je pose. Mais paradoxalement, c'est sous les gouvernements de ces présidences où le taux de féminicide explose. Et alors qu'on met plein de moyens, on constate que les taux augmentent. Là, j'ai regardé tout à l'heure les statistiques de l'INSEE. On en est déjà, ce soir, puisque j'ai l'impression que c'est actualisé quotidiennement, on en est déjà à 21 féminicides. 21 d'entre nous, des sœurs, si on était dans une dimension de fraternité démocratique, 21 d'entre nous nous ont quittés à cause de la violence d'hommes, de leurs conjoints. Donc, première chose pour moi, c'est constater ça, cette force de la société civile, et constater qu'elle est représentée majoritairement, principalement par les femmes. Moi ce soir je disais que je fais un aparté rapide, peut-être que je prends la parole, qu'on me la donne, mais j'ai besoin de vous dire combien je me sens à votre service, et donc notamment auprès de vous mesdames, pour questionner ensemble, vous permettre de vous exprimer, et je clôt là la parenthèse, l'aparté. La deuxième chose, c'est que je pense qu'il faut qu'on mette encore plus en avant des portraits des personnes, des femmes en avant. Moi, je l'ai fait, encore une fois, humblement, à l'international. Une des créations de la compagnie de la Malavague qui m'a pris le plus d'énergie et le plus de passion. J'ai mis en avant les chroniques d'une psychiatre palestinienne, le docteur Sama Jabr. Femme, musulmane, arabe, voilée. Je dis ça parce que le voile en France est problématique, mais j'y reviendrai dans mon propos aussi. Et c'est très difficile d'être une femme psychiatre en Palestine, parce que la psychiatrie déjà n'est pas reconnue là-bas. Et en plus, une femme qui prend à bras le corps ce sujet-là, et aujourd'hui elle est devenue responsable en chef de l'unité au sein du ministère de la Santé de l'autorité palestinienne de la psychiatrie. Moi, Sama Jabr, j'ai eu la chance de la croiser rapidement à la Ricamari. J'ai eu la chance de faire des visios avec elle. J'ai surtout la chance d'avoir eu accès à son visage et à ses mots. Et cette femme-là, je nourris, pour le coup, si je devais employer le mot du titre de Julia Kerninon, ma dévotion, je nourris une dévotion pour elle, une admiration. J'ai envie de travailler avec elle. On est à deux doigts de le faire. Elle m'a invité en Palestine pour qu'on parle de théâtre et psychiatrie ensemble. Voilà, ces femmes-là, pour moi, ce sont des guides, en fait, tout simplement. Je pense que il se trouve que j'ai une femme qui a le courage de m'aimer. Je la salue ce soir, je la remercie. Mais il se trouve que qu'une femme partage ma vie, c'est aussi ça un élément de réponse. C'est pour moi ce soir, il y a beaucoup le film qu'on va voir tout à l'heure parle de violence conjugale au sein d'un couple. C'est quand même très étrange, il n'y a pas un paradoxe que le couple soit l'endroit parfait pour la violence. Pour moi, le couple, normalement, sur le papier, c'est l'endroit de l'amour. Je pense qu'il nous faut toute une vie pour apprendre à aimer, mais ça passe par ça, réapprendre, apprendre, apprendre, réapprendre tous les jours à aimer. Donc c'est peut-être ça la fin de ma réponse, c'est être sur les personnes de proximité, les femmes qui sont les nôtres, familialement, amicalement, professionnellement. Voilà.
Alors justement, je vois des filles adolescentes à côté de moi. On parle de société à construire, etc. Nous, on a fait une partie de notre vie. Alors, on a des choses à faire encore. Mais effectivement, c'est générations qui arrivent. Je vous pose des questions. Si vous souhaitez y répondre, vous y répondez. Si vous ne souhaitez pas y répondre, vous n'y répondez pas. Mais est-ce qu'aujourd'hui, dans cette position-là, quand on réfléchit à ces notions d'égalité, est-ce que ça, dans la vie de tous les jours, c'est quelque chose qui vous interroge, vous? Ou est-ce qu'on se trompe, finalement, dans ce sujet?
Je trouve que l'égalité... elle doit être répartie pour tout le monde et il n'y a pas à avoir de différence.
Je suis du même avis.
Et dans les faits, est-ce que dans ce que vous vivez tous les jours, on ne rentre pas dans l'intime, hein, mais est-ce que finalement cette égalité, vous la sentez tous les jours?
Oui, je trouve que tout le monde me respecte à ma juste valeur et voilà.
Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Bon, alors je me promène, hein, parce qu'en fait on s'était dit qu'on allait se promener, c'est pour ça que j'ai pris un long câble. Je vous ai vu. Pourquoi vous êtes ici ce soir finalement, ce sujet et puis ce qu'on évoque là et ces discussions là, est-ce que ce sont des choses qui vous interrogent aussi tous les jours?
Eh ben, en fait, je suis venue avec une amie et on a discuté beaucoup ces temps-ci de ce dont vous parlez ce soir. Et on se disait aussi, mais parce que peut-être moi j'ai l'âge de l'héroïne du roman, donc j'ai peut-être une autre vision. On pensait aux hommes. Je trouve que parfois ça doit être dur pour les hommes de savoir où ils en sont. Comment tu as dit tout à l'heure, on a dit déconstruire peut-être, mais pas détruire.
C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le...
Ah, c'est vous qui l'avez dit, mais tu l'as repris.
Mais ouais, je trouve que c'est intéressant de dire ça, mais en même temps, quand vous prenez le rôle du muet, est-ce que c'est pas un peu too much?
Déjà, le spectacle n'existe pas, mais je suis content qu'il suscite une curiosité.
Parce que sinon, si on inverse toutes les forces de cette... Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu excessif, quoi.
Alors... libre à chacune et chacun Moi, je pense que j'ai pas de solution parfaite. C'est juste un code qui m'intéresse à explorer. Peut-être que je verrai qu'il tiendrait pas au plateau. Moi, ce que je vois, c'est que Julia Kerninon, pour revenir à mon inspiration, elle parvient à le faire tenir sur 300-400 pages. Donc, c'est un moment littéraire, de lecture intense. Et moi, en tant qu'homme, c'était fascinant de me mettre à la place du personnage qui tient le silence. Et pour plein de raisons. C'est-à-dire que c'est pas tellement un ordre, même si elle passe par le mode impératif « tais-toi », c'est pas un ordre de domination, même si elle passe par le mode impératif.
De règlement de compte ?
De règlement de compte, mais presque, ils se connaissent tellement. Lui, quand il la revoit, le livre nous l'explique après, et c'est ce qui m'intéresse théâtralement, c'est pas tant le « tais-toi » qui instaure le silence, que le fait de se revoir déclenche en lui aussi le mécanisme du silence. C'est un premier élément de réponse. Le deuxième, c'est que même si ce n'est pas une pédagogie parfaite de la réparation, et que je pense qu'il faut de l'échange, ce qui m'intéresse, c'est qu'une femme battue, elle n'a pas eu le temps de dire non, elle n'a pas eu le temps de donner son opinion, et qu'au-delà des violences conjugales, je pense que le temps d'une pièce de théâtre, pour moi, ce n'est pas excessif de montrer un homme qui écoute. Ce n'est pas tant qu'il se tait, c'est qu'il écoute. Et donc l'écoute, il y a quelque chose d'actif. J'ai une action, je dois écouter. Et du coup, là, si on est dans une visée de théâtre sociétal, c'est-à-dire que derrière, elle doit déclencher le débat, la réponse, l'éventuelle réponse que l'homme pourrait se faire, ça serait le débat avec le public. Moi, je pense que sur 45 minutes, une heure, un homme, et qui plus est la société, peut s'octroyer le fait d'écouter pendant 45 minutes une femme qui a quelque chose à dire en son nom, parce qu'elle le dit au début, j'ai besoin d'écouter notre histoire, c'est-à-dire qu'elle n'a pas pu le faire. Et puis, et lui, je pense qu'il est capable de le faire. Et la troisième chose, c'est des souvenirs. Je ne sais pas où vous en êtes dans vos discussions, que ce soit dans le couple, amical, bref. Mais est-ce que vous avez un souvenir de ces discussions? Moi, elles sont souvent le soir, d'ailleurs, mais il n'y a pas d'heure pour cela. Mais, on va avoir quelque chose à régler. Tiens, j'avais les patates à faire cuire ou je devais partir au travail. Puis non, c'est maintenant. Ah oui, on doit se parler là. Oui, je le sais qu'on doit se parler, ça m'aurait bien arrangé. Qu'on se parle pas, surtout que ça va être moi qui vais devoir écouter parce que je vois bien que j'ai fait quelque chose qui était pas top. Vous avez ces souvenirs de ces discussions où vous écoutez, il va falloir, il y a un moment où vous écoutez. Moi, en tout cas, ça m'est arrivé. J'ai dû écouter ma compagne, j'ai même dû écouter ma fille, des fois.
Mais le silence masculin est abyssal. Hein. Souvent, les femmes sont là à dire j'ai ça à dire. Et puis, il y a ce silence qui finalement fait pas trop avancer les choses, même si on a l'impression d'être écouté sur l'instant.
Alors, moi, je vais parler de mon expérience, puisque s'il y a quelqu'un que je connais un peu, c'est un peu moi, je reste mystérieux pour moi-même, mais le silence, il peut prendre plusieurs formes. Ne pas être entendu, je parle à un mur. On peut être écouté. Mais la personne ne montre pas qu'elle écoute. Donc on peut avoir la sensation de ne pas être écouté. On peut écouter, mais ne pas savoir quoi dire, ou ne pas pouvoir parler. Et c'est pour ça que je reviens sur la question de l'amour. Faire confiance. Je sens que tu m'écoutes, mais je sens que tu ne peux pas parler. C'est déjà autre chose. Oui. Mais déjà, tu m'as écouté. Et puis, moi, ça me pose toute la question de... Je vous lirai une lettre que je vous ai emmenée ce soir par rapport... Le film est sorti dans un contexte de féminicide en Italie. Il y a une jeune étudiante qui a été assassinée par son compagnon. Elle avait 22 ans. Dommage. Et sa sœur a écrit une lettre. Et elle parlait que c'était pas un problème de... La violence conjugale, certes, s'exprime dans un endroit privé, le couple. Mais c'est un problème de société qui nous concerne tous. La société, elle commence quand ? La société, elle commence à la naissance pour l'enfant. Comment j'ai été accueilli comme enfant ? En tant que parent, comment j'ai accueilli l'enfant ? Est-ce que je t'ai dit je t'aime ? Est-ce que j'ai entendu je t'aime ? Est-ce que j'ai été caressé ? Tout à l'heure, on évoquait avec Nico l'importance du sens du toucher. C'est quoi une violence conjugale ? C'est un mauvais toucher. C'est un toucher criminel, nommons-le, il est criminel. Mais donc c'est un mauvais toucher qui s'exprime par un viol, une claque, un toucher malveillant, c'est un manque, un toucher mauvais. Est-ce que l'enfant a été massé ? Nous avons tous les outils de communication, et c'est là que je veux en venir. Est-ce qu'on nous apprend à communiquer ? Est-ce qu'on nous apprend à avoir confiance en nous pour exprimer notre point de vue ? Est-ce qu'on nous apprend à avoir confiance en nous pour écouter le point de vue de l'autre ? Non, c'est peut-être ce qui explique. Si en plus vous rajoutez avec ça l'ingrédient du mystère de l'amour, ou des sentiments qui font que quand c'est dans le cadre privé, on est complètement... L'amour est abyssal, le fait de s'obliger à se confronter à la différence de l'autre. Et du coup, ben, si je n'ai pas appris à communiquer, ben, je deviens moi-même abyssal dans mon silence.
Alors peut-être on va passer à la lecture de cette lettre-là, mon cher Greg.
Donc ce soir nous sommes en France, à Saint-Étienne. Le film se passe en Italie. Mais j'ai l'impression que la lettre de la sœur, de Giulia, est assez universelle. Donc le criminel, puisqu'il faut bien le nommer pour la fonction qu'il a, s'appelle Turetta. Turetta est souvent défini comme un monstre, mais ce n'est pas un monstre. Un monstre est une exception, une personne extérieure à la société. Une personne dont la société ne doit pas prendre la responsabilité. Et pourtant, il y a une responsabilité. Les monstres ne sont pas malades. Ce sont des enfants sains. Sains, S-A-I-N-S, en bonne santé. Du patriarcat. De la culture du viol. La culture du viol est ce qui légitime tout comportement qui porte atteinte à la figure de la femme, à partir de choses auxquelles on n'accorde parfois même pas d'importance, même qui sont certes importantes, comme le contrôle, la possessivité, les insultes. Chaque homme est privilégié par cette culture. On dit souvent « pas tous les hommes ». Pas tous les hommes, mais ce sont quand même des hommes. Aucun homme n'est bon s'il ne fait rien pour démanteler la société qui les privilégie tant. Il est de la responsabilité des hommes, dans cette société patriarcale, compte tenu de leurs privilèges et de leurs pouvoirs, d'éduquer et d'interpeller leurs amis et collègues dès qu'ils entendent le moindre soupçon de violence sexiste. Dites-le. Dites-le à cet ami qui contrôle sa copine. Dites-le à ce collègue qui harcèle les passants. Rendez-vous hostile à de tels comportements acceptés par la société qui ne sont que le prélude au féminicide. Le féminicide est un meurtre d'État. Parce que l'État ne nous protège pas. Parce qu'il ne nous protège pas. Le féminicide n'est pas un crime passionnel. C'est un crime de pouvoir. Nous avons besoin d'une éducation sexuelle et émotionnelle généralisée. Nous devons enseigner que l'amour n'est pas une possession. Les centres anti-violence doivent être financés et ceux qui en ont besoin doivent avoir la possibilité de demander de l'aide. Pour Julia, ne gardez pas une minute de silence. Pour Julia, brûlez tout. Je voulais juste, j'entendais votre remarque, je vous prie de m'excuser si mon propos est allé trop loin. Mais vous voyez, c'est pour ça qu'à cet endroit-là de la discussion, moi j'ai vraiment besoin de ce soir avec vous, on ne le fait pas pour moi, mais puisque je suis là ce soir en tant qu'homme, de trouver mon endroit de légitimité. Je pense qu'on peut passer, il faudrait plein de soirées, plein de journées, où, et ça existe, où il y a des endroits que pour les femmes, entre vous, entre femmes, où vous vous exprimiez, et ça existe. Et certainement qu'il faudrait l'inverse aussi, où nous les hommes, on se parle entre nous. T'en es où toi dans ta remise en question? Ça va? Tu le vis bien? Parce que c'est une vraie question. Non, c'est complexe. Mais l'amour peut tout. On a besoin d'amour.
Les jeunes garçons, les adolescents, ils souffrent de ça, les ados. Parce que ils comprennent pas, ils débarquent et il faut d'un seul coup avoir peur des femmes quelque part. Et c'est pas bon quoi pour la suite. Donc il faut. Là, je m'adresse aux femmes en fait. Alors vous êtes tout à fait acquis à la cause féminine visiblement, mais en même temps,
je fais de mon mieux.
Vous êtes pas. Vous êtes quand même assez rare. Excusez-moi, mais j'en connais pas beaucoup quoi qui parlent comme ça autour. Mais en même temps, pourquoi on demande pas non plus que les choses soient aussi. C'est comme un mea culpa quoi. Et je sais pas si c'est par ce biais qu'on peut arriver à raccorder les wagons. En tous les cas, moi, ce que je vois avec l'âge que j'ai, c'est qu'on est en train de tout doucement dériver vers une sorte de séparation des genres. Alors, je ne parle pas pour tout le monde, hein, sans doute, mais qui n'est pas bénéfique pour la paix. Il faut que chacun mette de l'eau dans son vin. Mais je ne dis pas que le féminicide doit continuer et que c'est acceptable, mais...
Vous n'avez pas dit ça.
Je pense au masculin aussi. Et on n'en parle pas assez. C'est-à-dire la place, la nouvelle place, celle que nous, les femmes, on peut leur laisser ou leur permettre de développer dans cette compréhension mutuelle et pas tout de suite... casser, c'est trop par moment le mouvement MeToo. On est d'accord avec ça, je sais pas. Les dames. Ok, enfin peut-être les dames de ma génération plus, parce que je comprends aussi. Voilà, parce que on a besoin d'être ensemble, hommes et femmes.
Oui, bonjour, bonsoir tout le monde. Oui, moi ce que je voudrais dire par rapport à ce qu'a dit Madame, c'est qu'il faudrait pas qu'on inverse les rôles. Il faudrait qu'on arrive à avoir une juste compréhension. Puisque nous sommes complémentaires, hommes et femmes, on n'est pas égalitaires, on le sait tous. Les hommes ont plus de force, on n'est pas faits tous de la même manière. Mais ce qu'il faudrait, c'est qu'on arrive à trouver un terrain d'entente pour que tout le monde puisse avoir sa place. Il ne faudrait pas qu'on prenne la place des autres.
Ça interroge peut-être aussi la co-construction finalement, et qu'on est dans une société où chacun évolue dans son coin avec le pouvoir, encore une fois, des gens qui décident à la place d'autres, et que les discussions on ne les a pas. Alors c'est un espace de discussion. Est-ce que d'autres personnes souhaiteraient réagir?
Oui, bonsoir à tous. Bon, je pense qu'il y a deux mondes différents. Il y a le monde des années 50, peut-être un petit peu avant, Et puis donc il y a ce nouveau monde qui arrive actuellement. Si on revient en France, autrefois donc les femmes n'étaient pas dans la police, n'étaient pas dans la sécurité. Maintenant on en voit de plus en plus. On les voit donc dans le jardinage, on les voit donc dans le bâtiment. Donc effectivement donc il y a eu une grosse évolution. Moi donc j'ai 65 ans, j'ai vécu donc des mauvaises aventures avec les femmes au niveau de mon travail. Quand vous avez une DRH qui a 25 ans et moi j'en avais 64, qui se permet donc parce qu'elle est DRH, ou alors donc j'avais ma chef supérieure qui aussi avait 32 ans, qui se permettait donc quelque part d'avoir une espèce de discrimination, un non-respect au niveau des salariés, parce que mademoiselle donc avait un petit bac, pas plus compliqué que ça, et on sentait bien d'ailleurs qu'elle en profitait. Donc actuellement, on dirait qu'il y a une espèce de revanche qui se fait au niveau des femmes. Je ne parle pas pour toutes, encore une fois. Donc au niveau des couples, ça ne se sent pas beaucoup. Mais on sent qu'il y a une espèce de revanche. Elles ont bataillé durant les années 50 parce que donc les parents ont raconté ce qui s'est passé. Et effectivement, donc à cette époque-là, donc la vie était difficile, les salaires n'étaient pas hauts, il y avait tout un tas de choses qui. Et puis d'ailleurs, c'est très compliqué, très compliqué. Maintenant, donc je pense que les femmes, donc il y a aucun problème à ce qu'elles soient à l'égalité des hommes dans le monde du travail et dans le monde de la vie sociale. Mais à mon avis, à un moment donné, donc il faut quand même, voilà. Donc dès qu'elles ont eu un accès donc à une espèce de liberté et un accès royal, alors là donc c'est fini. L'homme, eh ben il est écrasé. Moi je l'ai vécu.
Madame.
Puisque le film va être a été tourné en Italie, moi je suis italienne. Donc Sicile. Je suis arrivée en France en 56. Je n'avais pas 16 ans. Je vais en avoir 85, donc voilà. Et j'ai connu mon époux ici. On n'était pas de la même région, lui, il était pugliese. Donc, on s'est connus ici, on s'est fréquentés, mais à cette époque-là, il y avait toujours, on ne pouvait pas sortir. Il venait à la maison, il y avait toujours ma maman avec les lunettes, donc qui était assise à côté. Donc voilà, c'était l'époque hein, des années 60. Et je me rends compte que maintenant, donc on est passé, si vous voulez, donc l'époque a changé, tant mieux. Et la femme, elle arrive quand même à prendre sa place. Avant, nous ne l'avions pas. Mon mari, le dimanche, c'était lui, costume et cravate. Il allait au Muscat avec ses copains. Et Giovanna à la maison, vite, vite, préparé à manger. Faire attention aux petits, donc voilà. Et ça, vous voyez, maintenant vieillissant, si vous voulez, ça me revient. Pourquoi j'ai accepté ça? D'être la femme à la maison, et lui toujours à l'extérieur. Il faisait de la musique, il était chanteur, il chantait, donc lui, il allait avec ses amis, jouer l'accordéon, la guitare et tout. Et Giovanna toujours à la maison avec les 5 enfants, donc voilà. Et je trouve que vraiment, c'était... on n'arrivait pas, si vous voulez, on n'arrivait pas à se rebeller à cette époque-là. Voilà. Tandis que maintenant, on peut le faire. Donc, j'exhorte toutes les jeunes dames maintenant à prendre sa place comme il faut. Voilà. Eh bien, mais à cette époque-là, si vous voulez, ça me fait... Ah, je vais vous dire quelque chose après. À cette époque-là, si vous voulez, bon... Il y avait les enfants qui étaient petits, si vous voulez, on avait d'autres préoccupations. On n'avait qu'un seul salaire, il fallait donc vivre avec, faire attention, être digne surtout. Digne. Et il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, nous étions les macaronis de l'époque. Hein? Les Italiens, les macaronis de l'époque, qu'on venait manger les pains des Français. Excusez-moi de le dire, mais vous le savez tous. Hein? Donc, voilà. Alors qu'on venait pour travailler, on était dans les baraques sans eau, sans WC dedans. Donc on nous tapait, macaroni, partez chez vous, qu'est-ce que vous faites ici? Voilà, ma maman était finie à l'hôpital, enfin passons. Voilà, c'est pour ça que maintenant j'étais toujours... Et moi j'ai toujours menti à mon mari. Je n'ai pas honte de le dire, pour m'affirmer en tant que femme. Parce que menti à mon mari. Je disais, quand mon mari venait du travail, finissait à 5 heures, ça dépend où il était, à 5 heures, car il était à la maison. Casserole sur le feu, les enfants à la maison... Giovanna vite avec le tablier, mettre la table, voilà. Et j'ai dit, mais ce n'est pas ma vie, ça. Après, j'ai dit, mais ce n'est pas possible, ce n'est pas moi. Alors, j'ai commencé à mentir. Je disais, ah Jean, tu sais, ce soir peut-être que ma maman, il y a le docteur qui vient, donc je vais chez ma maman, donc il y a le docteur. Et je commençais à mettre un pas devant l'autre dans la vie associative. Voilà, donc dans la vie associative, mais j'ai menti pour m'épanouir en tant que femme. Jusqu'à quand lui, après, il a fait un petit AVC, donc il fallait que je l'emmène avec moi si je voulais aller. Et petit à petit, je l'ai habitué après, donc, à venir avec moi. Et après, on lui disait, ah, monsieur Francavilla, ah, mais votre femme, hein, elle est très impliquée dans la vie associative. Et lui, bien sûr, tout orgueilleux, sur le coup. Et puis, quand il rentrait, il disait, mais oui, tu vois, les gens, quand même, comme ils parlent, vous voyez, mais pour pas accepter l'évolution de la femme. Voilà. Donc, les personnes qui sont un peu plus jeunes, là, ne vous laissez pas faire. D'accord ? Mais avec dignité, attention, hein ? Avec dignité, donc. Voilà, toujours en se respectant les uns les autres, mais toujours avec dignité. Et c'est comme ça que j'ai pu avoir une vie de femme. Parce qu'autrement, c'était Giovanna l'esclave à la maison, et lui, costume et cravate, au muscat le dimanche. Voilà, et il fallait que l'eau elle boue, pour quand il rentre, que je mette les pattes. Voilà, je vous ai tout dit. Paix à son âme, mon mari bossé.
Je trouve que ce qu'il y a de vertueux dans les prises de position, c'est que vous rappelez, en effet, de nombreuses évolutions qui ont lieu. Et dans mon introduction, dans ma manière de m'exprimer, mon but n'est pas de dire que tout va mal. Le but n'est pas de faire l'impasse sur ces évolutions ô combien nécessaires, qualitatives. Et ça fait plaisir d'entendre une adolescente qui dit « je me sens respectée ». Donc c'est un témoignage précis, direct, de bien-être. Donc ça fait vraiment plaisir. Maintenant, les statistiques aujourd'hui, et le but n'est pas de dire, de confirmer, d'avoir une autorité par le biais des statistiques, mais c'est pas parce qu'il y a eu de nombreuses évolutions qu'il n'y a plus de travail à faire. Je pense qu'on a juste commencé à sortir le pain de la panière. On n'a même pas commencé à le trancher, quoi. Et je trouve que c'est, je me permets sans critique, mais pour moi, il y a un paradoxe qui est très intéressant. C'est que, alors qu'on sait qu'il y a un chantier immense sociétal pour plusieurs générations, ce sont des femmes qui s'expriment en premier lieu pour dire peut-être doucement, n'inversons pas trop vite les rôles. Oui, et je vous remercie pour ces prévenances, pour ces sécurités. Merci de rappeler à la jeunesse qu'il faudra le faire dans la dignité et le respect de l'homme. Et il ne faudrait pas qu'on aille en effet dans un esprit de revanche. Il faut qu'on soit dans un esprit de réparation. Moi, le but par le système d'écoute de l'homme qui écoute la femme, c'est de permettre en premier lieu à la femme de se réparer par elle-même. C'est ce que dit le personnage. J'ai besoin d'écouter notre histoire pour me réparer. Et je pense que par la prise de parole de la femme, et donc le rôle d'écoute de l'homme, l'homme se réparera aussi parce qu'il a des choses à entendre. Mais ça peut se faire dans le respect, l'amour, la considération, le pardon. On va avoir besoin de beaucoup de pardon. Les hommes vont avoir besoin de demander pardon et d'espérer le pardon de beaucoup de femmes. Donc moi, ça m'interpelle, ça me choque pas. Je note juste un paradoxe. Ce ne sont pas des hommes ce soir qui disent il y a eu un témoignage de monsieur. Mais il faut quand même rappeler une réalité. Les crimes, les violences conjugales, c'est les femmes qui meurent de violences conjugales, majoritairement. Ce sont les femmes qui subissent les écarts de salaire. Ce sont des femmes majoritairement qui... Excusez-moi madame, je finis juste ma prise de parole. Je vois des femmes ce soir qui sont voilées, des jeunes femmes. Ce sont des femmes musulmanes qui souffrent d'une stigmatisation de savoir si j'ai le droit ou j'ai pas le droit, c'est bien ou j'ai pas bien, c'est pas bien de porter le voile. Excusez-moi du peu, mais ça regarde l'intimité de chacun. On peut questionner après comment on définit le cadre de la laïcité en France. Mais vous pouvez m'expliquer pourquoi chez un pays occidental voisin, la Grande-Bretagne, vous arrivez à l'aéroport. Moi, je suis arrivé à Londres à l'aéroport, j'ai été accueilli par une femme voilée. Je m'étais aussi bien accueilli en Grande-Bretagne. Et c'était magnifique. Pourquoi ça pose question ? Moi, j'ai une comédienne, Sabrine Benjima, qui est dans la pièce derrière les fronts. Quand je l'ai auditionnée, elle a fait une performance incroyable avec le voile. C'était une des conditions pour justement voir si la comédienne était à l'aise. Il y a des comédiennes, qu'elles soient occidentales ou arabes, elles ne voulaient pas porter le voile au plateau, par féminisme. Très bien, je respecte ton opinion. Si même au théâtre, qui est l'endroit de la liberté, c'est même encore difficile pour toi. Moi, je peux jouer une femme voilée, hein, si vous voulez. Je vous joue une femme voilée demain, ça choquera peut-être des personnes. Mais c'est techniquement possible, théâtralement, c'est possible. Et Sabrine, dans sa performance, elle avait amené deux voiles. Un voile plutôt sombre. On était dans la période de l'État islamique, etc. Je ne suis pas en train de dire que les personnes qui ont un voile sombre sont dans une certaine interprétation de l'islam. Mais elle avait manifesté son interprétation par de l'État islamique. Et c'était une femme militante, guerrière. Donc elle était dans l'interprétation secondaire du djihad qui passe par la guerre, pas par la remise en question en soi. Et moi, en tant qu'homme blanc, j'étais là, waouh, quel courage. Elle dénonce, elle était un peu dans une forme de critique, même si elle était dans une forme d'affirmation. Il y avait une forme de critique de la musulmane qu'elle est, de la femme du djihad islamique. Et là, du coup, elle fait quelque chose d'incroyable. Elle enlève le premier voile et elle met un voile clair. Un merveilleux voile clair, lumineux. Et elle devient sage. Elle devient la femme musulmane de la France. Celle qui a grandi dans l'école Liberté, Égalité, Fraternité. Oh, j'étais là, ouais, la France quand même, le top. Le problème, c'est qu'au fur et à mesure que sa performance avançait, ce voile devenait de plus en plus un outil avec lequel on l'étranglait, avec lequel on l'obligeait à se questionner sur liberté, égalité, fraternité. Et elle questionnait le modèle de la France. Donc voilà, juste pour aussi donner des pistes, on ne va pas avoir le temps de tout traiter ce soir, mais quand même, oui, avant de se dire, oui, merci de prendre soin des hommes dans notre remise en question, de vous inquiéter de la façon dont on doit se remettre en question. Mais de grâce, s'il vous plaît. N'écartons pas le débat de ce qui est, à mes yeux, mais c'est mon humble point de vue, mais je le mets volontiers sur la table. Considérons d'abord la victime. Et qu'elle soit femme, homme, il y a des hommes hein, victimes. Il y a des hommes qui sont tués par leurs femmes. Je ne sais pas quelles sont si les questions, c'est qu'une question de revanche. Hein. Il y a peut-être des femmes criminelles, dominantes, etc. C'est des cas statistiques, mais une vie est une vie. Donc il y a des hommes qui meurent sous des coups, il y a des hommes victimes de femmes. Voilà, ça existe peu, mais ça existe. Il faut considérer ça aussi. Mais il y a un moment, il va falloir regarder de face. Et c'est une question sociétale. Hein. Ça enclenche plein de restes. Moi, je suis, en tant qu'homme, j'estime que je suis victime de transmission de modèles patriarcaux. On salue ou on note, on remarque, je me remets en question. Il y a peut-être beaucoup de blabla aussi, c'est peut-être facile pour moi de me mettre en public et de dire que je me remets en question. Je le dis publiquement parce que c'est ce que je tente de faire et que je crois en ça. Je vois une main qui s'était levée là-bas.
Non mais c'est bien résumé ce que vous avez dit. Mais oui, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec... désolée. Avec,
faut pas être désolée. Hein.
Non mais voilà, avec la vie d'ensemble parce que... Je pense justement sur la question du silence, effectivement, je trouve que c'est important aussi qu'on soit écouté. Et bien sûr, sur le fait que des fois, sur le mouvement MeToo, on va peut-être un peu loin, je ne suis pas totalement en désaccord, parce que moi-même, je me suis déjà aussi posé la question en tant que femme hétéro qui sort avec un homme cis blanc de ma position, moi, en tant que féministe dans tout ça. Donc, je suis d'accord là-dessus. Par contre, effectivement, dans les faits, il y a quand même enfin... Je suis ravie, les filles, d'entendre que vous vous sentez respectées, et c'est très bien. Mais moi, je ne suis pas d'accord, et je trouve qu'il y a encore beaucoup de problèmes, et notamment, je pense, moi, à mon âge, je sors beaucoup, et dans les milieux festifs, il y a encore trop de soucis. C'est pas normal qu'on n'ose plus, nous, sortir, aller en festival, parce qu'on a peur d'être drogués, qu'il nous arrive des choses... Alors que de la manière dont on va s'habiller pour sortir, parce que attention à telle heure, voilà, c'est des soucis, c'est pas normal encore aujourd'hui qu'on se les pose. Et je voulais rebondir aussi par rapport à la question des postes, des hauts postes tenus par des femmes. Je pense qu'il faut pas tout mélanger, même si j'entends tout à fait ce qu'a dit le monsieur et je peux comprendre. Et surtout, je sais qu'il y a cette tranche d'âge de où on est à des hauts postes très jeunes et donc on n'agit pas toujours bien, donc je suis d'accord là-dessus, mais je ne suis pas sûre que ce soit que des femmes. Je pense qu'il ne faut pas mélanger tous les sujets là-dessus. Voilà, je pense que ce n'est pas forcément genré. Mais après, il y a des points sur lesquels j'étais d'accord, mais je pense qu'on n'a pas encore...
Un mot, puis c'est aussi le mot de mon amie qui a dû partir. Elle me disait qu'il fallait que je vous parle des masculinistes, et ça rejoint un peu vous. C'est pas parce que nous, on a dit... Moi, je fais partie des gens... voilà, moi, je suis post-68, hein, et puis je suis allée à l'école, puis je suis allée à l'école longtemps, et je suis allée à l'école en France... Et puis en plus, j'étais dans l'éducation nationale. Bon, alors voilà, moi j'ai eu la chance de pouvoir réfléchir à toutes ces choses-là. Et je pense qu'il y a un petit danger à généraliser les choses. Par exemple, moi je suis absolument horrifiée quand je vois des reportages sur les femmes afghanes ou sur... Vous voyez, je trouve que ma position de française, de mon âge, etc. Et même moi, enfin, j'ai pas de filles, j'ai que des garçons, mais qui ont votre discours d'ailleurs. Qui disent que parce qu'ils sont garçons, de toute façon, ils ont toujours
eu. Fils.
Peut-être. Non, mais j'ai un fils qui me dit, ben, tu te rends pas compte, maman, parce que je suis garçon, j'ai toujours eu la meilleure part. Et c'est un peu ce que vous dites. Enfin, déjà, rien que le fait de naître garçon, on a des avantages. Voilà. Et c'est vrai que c'est l'héritage de toute une culture de siècles et de siècles. Mais moi, j'ai eu la chance de vivre dans une petite partie du monde à une époque où les choses ont beaucoup changé, puisqu'on a tous parlé d'évolution, etc. Mais attention, attention les filles, à ce que vous a dit la charmante dame italienne. Attention, parce que tout ce qu'on a gagné, tout ce que nos mamans ont gagné... Regardez l'avortement, par exemple, le droit à l'avortement. Exactement. Il y a des pays qui reviennent là-dessus. Hein,
des ce démocraties qui se passe aux États-Unis, les États-Unis,
etc. Donc il faut qu'on soit vigilante pour continuer de faire ce qu'a commencé la génération de madame. Voilà.
C'est pour ça que moi,
je rejoins ce que vous avez dit.
Ça m'interpelle
à cet
endroit-là.
Mais en même temps, je
ne
veux pas détruire les hommes. Hein, moi, je les aime bien.
Mais non, mais l'un n'empêche pas l'autre, en fait. La remise en question n'est pas une criminalisation. Il faut être précis dans les termes employés. Le but n'est pas de dire vous monsieur, toi, il y en a deux là-bas et moi, nous sommes des criminels, nous sommes que des pauvres enfoirés pour rester dans un vocabulaire. Non. Il y a juste, et excusez-moi, jeune monsieur, l'avenir de la société. Le but est juste de nommer les choses. Il me semble paradoxal, oui, un grand oui, nommer les évolutions, mais dans un contexte de quelle fragilité ? Justement dans une période où les nouveaux fascismes reviennent, et qui sont les premières victimes des fascismes ? Je suis désolé de le dire, c'est les femmes, justement par un sujet comme celui de l'avortement. Moi, il y a un sujet, il est délicat à exprimer publiquement et sociétalement. Mais il va falloir qu'on s'y attelle. Parce que ça devient l'outil d'éducation sexuelle. La sœur de Julia parlait d'éducation sexuelle. Mais il va falloir qu'on parle publiquement de pornographie. Je ne vais pas aller trop loin parce que nous avons des enfants mineurs ce soir. Mais n'empêche que, il va falloir avoir un gros débat là-dessus. Vous parlez des femmes afghanes. Moi, ça fait partie de mes premières émotions d'interrogation de jeunes hommes. Il y avait Carl Zéro à l'époque, le dimanche, le vrai journal. C'était grâce à ce genre de médias qu'on pouvait avoir accès le dimanche à grande écoute à des sujets aussi pointus et privés, au sens on était coupé du monde, sur la condition de la femme afghane. Et puis il y a eu un autre exemple, c'est Waris Diri, une mannequin éthiopienne, pardonnez-moi mesdames pour le qualificatif d'homme que je suis, c'était une femme mannequin, elle était magnifique, soit de grande écoute, je me suis dit bah voilà, une énième mannequin qu'on met en avant, c'était Guillaume Durand à l'époque qui présentait Nulle part ailleurs. Le problème c'est qu'elle était pas, elle ne souriait pas, elle avait sa politesse, une grâce. Je dis tiens, c'est étrange, ce soir ce mannequin ne sourit pas. En fait, on a parlé d'excision ce soir-là. Ce soir-là, l'adolescent candide que j'étais, j'ai appris qu'au nom d'une culture, voire qu'on justifiait après par du mythe et de la religion, mais qu'il y avait de nombreuses jeunes filles en Afrique qui étaient donc, comme on peut vous exciser, mais pour définir, on leur coupait, on le retranchait dans la violence, pour voir les conditions de l'excision, un bout de leur sexe. Apprendre ça, ça fait partie des déclenchements. Donc on pourrait se dire, il y a toujours pire ailleurs. Oui, ok, il y a toujours pire ailleurs. Mais je suis désolé, les statistiques nous rappellent, et je pense que quand on se définit, quand on se dit c'est pire ailleurs, ça veut dire qu'on est fier de qui on est. Mais si on est fier de qui on est, ça veut dire qu'on est impeccable. Quand on se définit comme une nation démocratique et qu'on est au top sur les droits de, on dit les droits de l'homme, des droits de l'homme et de la femme et des humains, on ne devrait pas avoir dans nos chères démocraties où apparemment on a trouvé les systèmes parfaits d'éducation et de communication, on ne devrait pas avoir les statistiques de violence. Monsieur, tout à l'heure, vous évoquiez, et à juste titre, parce que ça justifie l'évolution historique. Ce soir, nous allons voir un film. C'est même peut-être même pas intéressant de voir un documentaire, parce que le film a une portée documentaire. Franchement, l'Italie des années 40, c'est vrai que c'est pas notre premier souci. Bah, bizarrement, le film est sorti dans un contexte de féminicide. Une femme de 22 ans exécutée par son petit ami. Et la réalisatrice, on peut peut-être lui faire confiance. C'est comme Montesquieu quand il écrit les lettres persanes. C'est pour mieux comprendre par un autre regard. Eh bien, peut-être que Paola Cortellesi, si je la nomme bien, elle fait un petit détour par le passé, mais pour mieux nous mettre notre réalité en face qui n'a pas beaucoup changé. Donc, il me semble important de garder cette vigilance. Tout à l'heure, j'évoquais la pornographie. Et c'est là où je voulais en revenir sur la comparaison des corps. C'est sûr que la vie d'une femme afghane... je ne pense pas qu'il y a beaucoup de consentement. Et je ne pense pas que ce soit sa vision de l'islam à cette femme-là. Et d'ailleurs, l'origine du tchador, avant d'être islamique, est peut-être encore plus anciennement traditionnelle. Mais je suis désolé, même s'il peut y avoir de la liberté dans les corps, je vais faire une confession, j'ai déjà joué nu. Ça vous choque peut-être, j'en sais rien. Mais au nom du théâtre, qui est un endroit de liberté, voilà jusqu'où je suis allé. C'est le libre consentement. Ça ne me dérange pas qu'on puisse aller vers une monstration publique au nom de la liberté de son corps, mais quand ça devient que ça, et que de année par année, le vêtement se réduit peu à peu, juste à cacher ce qu'il ne faut sociétalement pas montrer. La pornographie, ce n'est pas que sur les sites pornographiques. La pornographie, elle commence sur les panneaux publicitaires, sur la mode qu'on met en place. Quand vous avez des psychiatres qui commencent à écrire, vous avez une psychiatre, j'ai oublié son nom, elle intervient sur les plateaux publics, de la télévision publique, on peut encore peut-être lui faire confiance à cette télévision-là, qui vous dit que dans 10 ans, les couples ne feront plus l'amour à cause de la pornographie. Il va peut-être falloir se questionner. Donc je suis désolé, nous n'avons peut-être pas les femmes afghanes, mais nous créons un modèle de femme. Et après, chacun fait ce qu'il veut avec la pornographie. Ça peut être un endroit de plaisir, d'éducation sexuelle. Il peut y avoir une bonne pornographie féministe faite par des femmes, parce que là aussi, il va falloir questionner les façons de faire de la pornographie. Mais quel corps nous construisons de la femme dans nos sociétés occidentales? Donc le but n'est pas d'être binaire. Il y a ça qui est bien, ça qui n'est pas bien. Il y a ça qui marche et ça qui ne marche pas. Il y a juste de dire nommer. Quand ça marche, il faut le mettre en avant, du management qui serait plus positif. Mais il faut nommer les endroits où il y a des victimes. Je pense que c'est ça, en fait, le plus important. Nommer les endroits de victimes. Et quand vous avez des budgets qui baissent, dans la culture, c'est pas la question de ce soir, mais dans le ministère de la Justice, moi, en tout cas, dans la lettre de la sœur de Julia, il y a quelque chose qui m'intéresse vachement. Tout à l'heure, vous nommiez... l'endroit de drogue, la peur d'être drogué pendant les soirées. Il ne faut quand même pas oublier que la France vient d'être traversée par un traumatisme, et il y en a une qui est surtout traumatisée, c'est celle qui a vécu la violence. Le procès où Gisèle Pellicot était victime, quoi. Femme droguée par son mari dans un contexte de viol collectif. Ben, il y a peu, hier, j'ai vu qu'un homme se faisait passer par un hypnothérapeute. Pendant 20 ans, il a violé sous drogue. Enfin, je veux dire, à un moment, ça questionne l'éducation qu'on a eue. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à cette expression de cette déviance-là? Quelle est l'origine de la déviance? Une fois qu'on a compris, bon, bah, toi, écoute, faut pénalement on te punisse, mais on va peut-être s'intéresser à toi, on peut peut-être aussi le soigner. On ne va pas faire que le considérer comme le criminel. Tu es criminel sur le papier. Mais tu as peut-être besoin, tu as manqué d'amour, non, à un moment, pour en arriver là, non? Moi, ce que j'aime dans le témoignage de la sœur de Julia, c'est qu'elle dit ce ne sont pas des monstres. C'est trop facile. Il y a le réflexe lexical. Tu n'es qu'un monstre, parce qu'on n'a pas de mots. Mais non. Je suis un humain. Ça fait partie de notre potentiel.
Je serai d'accord avec vous lorsque vous dites l'homme n'est pas un monstre dans ce contexte. Mais la femme non plus, elle n'est pas là pour ramasser les pots cassés.
C'est pas ce que j'ai dit. J'espère que j'ai bien
non,
dit l'inverse.
Non, je ne parle pas de vous. Je parle de la société. Ça serait bien de trouver un moyen pour soigner ce monstre, entre guillemets, pour ne pas faire violenter la femme.
Peut-être que ça peut être l'objet d'une autre discussion, parce que sans couper court à cette discussion-là, il y a la projection du film. Mais ça peut être terminé un peu là-dessus, sur avoir une prochaine discussion. Parce que discuter, c'est peut-être ça aussi le principe. C'est pas décider à la place d'eux, c'est discuter, c'est de partager, c'est d'échanger son avis, c'est d'écouter l'autre, et c'est finalement... donner à chacun sa juste valeur et que chacun doit être l'égal de l'autre. C'est l'idéal, ça.
Si tu m'autorises mon mot conclusif, vas-y. C'est que n'ayons pas peur du mot amour. Parce que je pense qu'on a besoin de beaucoup d'amour et qu'on est une société en manque d'amour. Et que même le bourreau, même le criminel, est quelqu'un qui a certainement été mal aimé et que, avant de devenir bourreau, pas tous, mais il a été certainement victime. Donc ça questionne la manière dont on perpétue par manque d'amour. Et souvent on dit l'amour, oh c'est mignon, on dit souvent c'est bisounours. Vous savez, ce dessin animé, c'est des bisounours, ils ont un petit cœur. Mais l'amour, c'est pas bisounours. Je pense que l'amour, c'est très facile de frapper quelqu'un en final. Hein. Moi j'ai été agressé 2 fois dans la rue, c'est très facile de se prendre un coup de pied retourné. Hein. Je pense que c'est horrible d'être violé, mais je pense que c'est assez simple dans le processus. Je parle du point de vue du bourreau. Par contre, se remettre en question, questionner tout ça, ça, il va nous falloir beaucoup de temps et d'exigence et donc beaucoup d'amour. Donc ne banalisons pas le mot amour parce que je pense qu'il est très exigeant et apprenons à nous aimer soi déjà, pour qui on est, ça passe par la remise en question, à aimer l'autre et à nous aimer les uns les autres. Pour moi, c'est ce que j'aime dans la devise républicaine, même si elle est masculine, la fraternité. Ça manque la dimension féminine de la sororité. Il y a le mot adelphité qui propose la rencontre du masculin et du féminin. Peut-être qu'un jour, on aura liberté, égalité, adelphité, qui serait la dimension donc, de l'amour fraternel et sororal, je ne sais pas comment on dit, sororal, adelphique, où on apprend à s'aimer, se considérer, se respecter. Et c'est possible, je suis convaincu que chacune et chacun ce soir... à des expériences d'amour, que ce soit de l'amour familial, amoureux, sentimental, amical, professionnel. Soyons dans l'amour au boulot aussi. Ça évitera les déviances du management. Merci à vous en tout cas.